9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serrane est ravi d'être parmi vous, amis auditeurs. Et oui, une petite heure ensemble en cette fin de semaine. Que demande le peuple? Quoi de mieux pour entamer ce week-end ensoleillé? Quoi de mieux pour égayer votre samedi que d'échanger avec Maître Serrane? Je serai, je l'espère, votre vitamine, votre barbe à papa, votre pomme d'amour. Bref, ce petit truc qui fait qu'en fin de journée, vous pourrez dire « Ah, j'ai passé un bon samedi grâce à Maître Serrane. Vivement samedi prochain !» Et donc, la douce voix de Maître Serrane. Vous savez, mon cher Philippe, il me faudrait beaucoup plus d'une heure pour évoquer les qualités fantastiques de ma personne, mais le temps nous est compté et je dois évoquer l'actualité de la semaine. Et tout d'abord, l'histoire de cette petite fille qui a été enlevée par son père. D'aucuns diront, est-ce que le terme « enlevée » est approprié dans la mesure où l'intéressé n'est autre que le père de cet enfant? Alors oui, juridiquement parlant, il s'agit bien d'un enlèvement et on a vu sur les chaînes info défiler des experts en carton qui ne connaissent rien de cette affaire mais qui ont déjà condamné le père. Alors ne connaissant moi-même aucunement cette affaire, je ne vais ni condamner ce père ni lui trouver des circonstances atténuantes. Je dis simplement que dans ce type de dossier, il n'y a pas un méchant et un gentil. D'ailleurs, aucun des intervenants sur les chaînes info ne s'est demandé pour quelle raison un père en arrive à commettre un tel acte. Un manque de dialogue entre les parents, une justice parfois autiste, des parents qui ont oublié qu'ils se sont un jour aimés, que de cet amour est né un enfant. La nature humaine est surprenante. Vous pouvez un jour faire des pieds et des mains pour pouvoir vivre avec celle que vous considérez comme le centre de l'univers et le lendemain, faire des pieds et des mains pour vous débarrasser de votre partenaire que vous finissez par détester plus que tout. Bon, vous me direz heureusement que de tels conflits existent. Les divorces, autres affaires familiales constituent un pourcentage non négligeable du chiffre d'affaires des cabinets d'avocats. T'imagines un monde où tout le monde s'apprécierait, où tout le monde s'aimerait, plus de litiges, plus de batailles, que de la bienveillance, bref. Un monde où la profession d'avocat n'aurait plus lieu d'être et donc un monde où le samedi matin, Maître Serrane n'aurait plus à officier car il n'y aurait que des gens heureux. Autre actualité moins médiatisée, les déclarations de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui alors que personne ne lui a rien demandé, s'est dite favorable à un procès du président syrien Bachar el-Assad qui s'est rendu au sommet de la Ligue arabe. Et oui, rien que ça, elle a déclaré que la lutte contre les crimes, contre l'impunité, fait partie des valeurs de la diplomatie française. Est-ce au nom de cette même diplomatie française que, durant la guerre d'Algérie, la France a utilisé contre les Algériens les armes chimiques, a bombardé des populations civiles, a torturé à volonté et a tout fait pour verrouiller juridiquement toute possibilité, avec la complicité de la Cour de cassation, d'entamer des poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité? Alors doit-on rappeler qu'il faut avoir le cul propre avant de donner des leçons? Allez, que vous ayez le derrière propre ou pas, prenez votre téléphone, composez le 01 53 48 3000 et posez vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui ne donne jamais de leçons, contrairement à Madame Colonna, Monsieur Philippe Robichon, à vous, maestro.
Maître Serrane, hein, c'est tous les samedis en direct sur Beurre FM. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, Maître Serrane. Je voudrais vous associer, vous qui nous écoutez tous les samedis, à ce qui se passe dans ce studio. Mais là, on vous a fait une tête d'influenceur. On est en train de vous filmer.
Oui, c'est...
C'est Fodil qui s'amuse. Ouais. Il vous a mis des oreilles de lapin. Il vous a fait une bouche de canard.
D'accord.
Et un petit teint unifié, matifié. Hein, vous êtes beau comme au premier jour.
Mais est-ce qu'on a signé quelque chose?
Bah, je ne sais pas. Fodil, tu vas faire quoi de cette vidéo de Maître Serrane? Tu vas faire quoi de cette vidéo de Maître Serrane? Parce que Maître Serrane a une image. Je te rappelle qu'il est avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Donc
Je vais la garder souvenir. Ensuite, je vais la ressortir dans 10-15 ans.
Ah oui?
Et je pourrais le faire chanter avec.
C'est... Bon, 10-15 ans, c'est un peu ambitieux pour faire chanter Maître Serrane.
Là, il aura quand même beaucoup d'argent.
Ou il ne sera pas frais hein, dans 10-15 ans, Maître Serrane. Hein.
Bah, carrément.
Ah ouais.
C'est-à-dire que là, vous savez déjà que dans 10-15 ans, alors que j'aurai 45 ans, quoi, max.
Ah ouais?
Que dans 10-15 ans...
Sans les taxes.
Là, comme non, ça. Non, il n'y a pas de taxes. Il n'y a plus de taxes.
Il est très classe, Maître Serrane.
Merci, Fodil.
Il est incroyable, hein, ce jeune.
Non, mais moi, j'aime bien les jeunes qui disent la vérité. La plupart des jeunes passent leur temps à mentir. Fodil, jamais.
Bon.
Il dit que des choses vraies.
En parlant de choses vraies, vous avez partagé avec moi des secrets, Maître Serrane, mais que je ne peux pas révéler. Mais nous allons saluer la présence dans la famille Serrane d'un nouveau.
Oui,
du
c'est
petit
vrai,
dernier.
C'est vrai,
il s'appelle Ghost.
Il s'appelle Ghost.
Ouais.
C'est un tout petit chien. C'est un staff croisé ouais, avec.
Il est petit maintenant.
Il a 5 mois maintenant. Mm. Mais il est tout noir. Je l'amènerai la semaine prochaine.
Non.
J'ai hésité parce que je pensais que vous aviez peur des chiens.
Non.
Je me suis dit, on ne sait jamais.
Non.
Et puis je me suis dit, on ne sait jamais si je le ramène pendant une heure, peut-être qu'il y a un moment, il va lâcher une mine ou un truc comme ça.
Non, mais c'est pas ça. C'est surtout s'il tire sur la djellaba de l'imam.
Ah bah ouais, mais bon, si les mêmes mettaient un slip contre un, parce que on a donc appris qu'il en mettait jamais et pas que quand il est à la Mecque. Donc s'il se slippait régulièrement, il y aurait pas de risque.
C'est pas ça. Mais pourquoi vous l'avez pas appelé Vérissure, votre...
Pardon ?
Pourquoi vous l'avez pas appelé Vérissure, votre chien ?
Pourquoi ? Mais parce que vous considérez qu'un chien, c'est juste pour assurer votre défense comme ça. Et l'amour du chien.
Moi, l'amour du staff.
Oui. Un petit staff sympa.
Bon,
non, mais quitte à prendre un chien, autant en prendre un quand même qui puisse un jour vous rendre service.
Oui.
C'est passer son temps à l'emmener chez le véto, à le nourrir, et puis un jour vous avez besoin de votre chien, c'est lui qui prend la fuite, c'est problématique.
Bon, on fera la connaissance de Ghost la semaine prochaine. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qui peuvent poser leurs questions en direct, toutes les questions juridiques, au 01 53 48 3000. À Maître Serran, alors qu'on approche des vacances scolaires, vous, Maître Serran, vous nous propulsez déjà dans la rentrée scolaire. Est-ce qu'en cas de séparation, l'un des parents peut inscrire l'enfant dans l'établissement scolaire qui lui plaît ?
Ça peut effectivement sembler prématuré. Vous avez raison, les vacances arrivent et puis chacun, en tout cas, espère passer ses petites vacances tranquilles. Donc pourquoi parler de la rentrée scolaire si ce n'est pour miner les enfants, sauf que dans le meilleur des mondes, quand papa et maman vivent ensemble ou quand papa et maman sont séparés mais s'entendent bien, la question se posera pas pour la rentrée prochaine. L'enfant ira dans l'établissement choisi par le ou les parents. Sauf qu'on n'est pas dans le meilleur des mondes et que très souvent, lorsqu'il y a des enfants au sein d'un couple et lorsqu'on est soit en pleine séparation, soit lorsque la séparation a été actée, il y a une question qui se pose très souvent, à savoir où est-ce que je vais pouvoir scolariser mon enfant. Alors quand les parents habitent dans le même secteur, il n'y a pas beaucoup de litiges, si ce n'est parfois, puisque la nature humaine est sans limite, parfois vous avez l'un des parents qui veut scolariser son enfant dans un établissement privé, alors que l'autre veut scolariser son enfant dans un établissement public. Donc il peut y avoir déjà un petit litige, mais il faut savoir que si, dans l'absolu, il y a vraiment un désaccord en la matière... il y a qu'un juge aux affaires familiales qui pourra statuer sur ce litige. Alors, à chacun d'invoquer et d'évoquer ses arguments, mais en règle générale, quand on est dans le même secteur, enfin, il faudrait tomber sur le père ou la mère, entre guillemets, un peu compliqué, pour pas dire pénible, pour créer ce genre de litige. La question se pose lorsque les parents sont séparés et éloignés l'un de l'autre. Alors, très souvent, ce qui embête, on va être clair, on va dire dans 95% des cas, c'est la maman qui a la garde de l'enfant. Mais lorsque l'enfant était déjà scolarisé, lorsque la mère, pour des raisons lambda, alors bonne ou pas bonne, mais lorsque la mère déménage, il y a de facto un changement d'établissement à effectuer. Et ben, ce changement d'établissement parfois exaspère aussi le père de l'enfant, et la question se pose. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? Alors, il faut savoir, ça peut sembler curieux, mais c'est comme ça, que si vous souhaitez changer votre enfant d'établissement, alors vous avez besoin de ce qu'on appelle un certificat de radiation. On appelle ça un acte usuel. Alors, un acte usuel, c'est quoi ? C'est un acte que chaque parent peut faire tout seul, sans venir avec, entre guillemets, sa moitié. Donc, madame ou monsieur pourrait aller au sein de l'établissement et puis dire, écoutez, moi, mon enfant, pour l'année prochaine, je vais le scolariser dans un autre établissement. Merci de me donner ce certificat de radiation. On considère qu'il y a une présomption. C'est-à-dire que cette présomption signifie que le chef d'établissement va pas mener une enquête, il va considérer que si c'est la mère qui vient ou si c'est le père qui est présent, le parent vient avec l'accord de l'autre. Donc je vais pas, moi, mener une enquête. Donc on a parfois des chefs d'établissement qui donnent ce certificat de radiation. Le parent qui a obtenu le certificat de radiation va scolariser l'enfant dans un autre département, dans un autre établissement, sauf qu'on découvre que l'autre parent... très souvent, encore une fois, il ne s'agit pas de caricaturer la situation, mais très souvent, c'est le père qui apprend ça et qui dit « mais moi, je ne voulais pas que mon enfant soit scolarisé dans un autre département, dans un autre établissement. » Mais quand l'inscription est déjà faite, en vérité, il n'y a rien qui interdirait de le contester, mais on va dire en vérité, c'est quasi trop tard.
C'est-à-dire qu'au moment de l'inscription, on ne va pas vous demander... Qui est détenteur de l'autorité parentale.
Quand on a affaire à des chefs d'établissement, en règle générale, qui ont déjà eu, entre guillemets, des difficultés à gérer dans ce type de situation, maintenant, ces chefs d'établissement sont sur leur garde. C'est-à-dire que même si, moi, père, je peux aller voir le chef d'établissement tout seul pour dire, écoutez, je vais scolariser mon enfant ailleurs, la logique voudrait que ce chef d'établissement dise « j'aimerais avoir une confirmation quand même de la part de la mère de l'enfant ». Mais juridiquement, encore une fois, c'est ce qu'on appelle un acte usuel, c'est-à-dire c'est un acte que je peux faire tout seul. Et le chef d'établissement, de bonne foi, c'est-à-dire que le chef d'établissement part du principe que « bah tiens, il y a monsieur qui est venu, mais son épouse est d'accord parce que on a déjà été amené à se rencontrer, je dis n'importe quoi, pour des conseils de classe ou autre ». Donc quand la tierce personne, le chef d'établissement, est de bonne foi, ça pose pas de difficultés. Mais il est vrai que les chefs d'établissement, maintenant, essaient de se blinder juridiquement, et pour éviter tout conflit, pour éviter même d'engager la responsabilité de l'administration, ils sont en capacité de solliciter la présence de l'autre parent, comme ça, il n'y a pas de difficulté. Alors, dans le meilleur des mondes, quand papa et maman sont d'accord pour que l'enfant soit scolarisé ailleurs, banco, il n'y a pas de difficulté, sauf que dans la mesure où on n'est pas dans le meilleur des mondes, et dans la mesure où il y a une urgence pour scolariser un enfant, il y a aussi un timing à respecter. Dans l'hypothèse où je suis le père et je ne veux pas que le chef d'établissement remette un certificat de radiation, quand l'un des parents a un doute là-dessus, il faut officiellement qu'il prévienne le chef d'établissement. Alors, pour le prévenir, il faut qu'il y ait une trace écrite, hein, le vieux recommandé avec accusé de réception ou un mail à minima. Et dans ce cas, le chef d'établissement ne peut pas délivrer ce document qui sera pourtant indispensable pour procéder à une réinscription. Pour débloquer la situation, il n'y a pas mille options. La première option est pour le parent qui veut absolument obtenir ce document est de saisir dans ce qu'on appelle une procédure de référé. C'est une procédure d'urgence pour obtenir une date rapide. Et là, c'est justifié, puisque l'urgence, c'est que si les difficultés se posent au mois de mai, juin, juillet, et que la rentrée, c'est septembre, l'urgence, elle est là. Et c'est le juge des référés, le juge aux affaires familiales en matière de référés, qui va rendre cette décision pour dire s'il autorise ou pas le parent à scolariser son enfant au sein d'un autre établissement.
Ce qui veut dire que c'est une procédure rapide, si c'est un référé.
Alors, c'est une procédure rapide, mais c'est une procédure, contrairement à une autre procédure qui se fait, c'est une procédure d'audience à jour fixe. La différence, c'est que le référé est une décision provisoire. C'est-à-dire que si la mère obtient cette décision et que le père n'est pas satisfait, il peut saisir le même magistrat. C'est un peu technique, on dit au fond, c'est-à-dire que moi, parent, je peux comprendre que dans l'urgence, le juge ait décidé ainsi, sauf que là, il va y avoir, entre guillemets, un vrai procès, c'est-à-dire qu'on va être convoqués tous les deux, chacun va avoir le temps d'argumenter, et puis cette décision rendue dans le cadre d'une procédure de référé, moi, magistrat, je peux décider de revenir sur ce premier point et dire, bah non, écoutez, madame, vous m'avez en vérité pas donné tous les éléments, et donc revenir là-dessus. Donc, pour être certain d'obtenir une décision, comme on dit, sur le fond, c'est-à-dire une décision sur laquelle ce magistrat ne reviendra pas, il faut demander, on appelle ça une audience à jour fixe. Alors c'est un peu technique, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'adresser à un avocat. Et dans ce type de procédure, le magistrat va rendre une audience, une décision définitive. Alors quand je dis définitive, là pareil, il faut faire attention. C'est-à-dire que définitive n'interdit pas à celui qui n'a pas obtenu gain de cause d'interjeter appel. C'est-à-dire je peux aller devant la cour d'appel, sauf que les délais sont tellement longs qu'en règle générale, si l'enfant a déjà été scolarisé au sein d'un établissement, il n'y a pas un magistrat qui va s'autoriser à dire, bah, écoutez, ce gamin, On va le remettre dans son établissement d'origine. Pourquoi ? Bah parce que, certes, il y a la guerre entre les parents, mais le magistrat a un seul objectif, agir dans l'intérêt de l'enfant. Et il faut savoir que si cet enfant est en âge d'être entendu, le magistrat peut demander à ce que cet enfant soit auditionné. Mmh. Et d'ailleurs, les parents peuvent également demander à ce que leur enfant soit entendu, encore une fois, parce que d'abord, c'est qu'on le veuille ou non, le premier concerné. Et je le redis, c'est-à-dire que souvent, les parents, quand ils viennent vous voir pour dire « j'aimerais faire ça pour ma fille, pour mon fils », on comprend, en tout cas, on finit par comprendre que c'est pas forcément dans l'intérêt de l'enfant, c'est parfois pour embêter l'autre, c'est parfois pour s'éloigner du conjoint qui peut-être dans sa vie a été un jour violent, pénible, tout ce qu'on veut. Mais le but du magistrat, c'est de considérer qu'on intervient toujours dans l'intérêt du gamin.
Maître Serane, alors vous allez pouvoir poser vos questions dans un instant. Vous composez le numéro du standard de Beurre FM, le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions juridiques à Maître Serane au 01 53 48 3000. Et que si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne parce que vous êtes trop intimidé par Maître Serane et par l'antenne, eh bien vous pouvez appeler Maître Serane en particulier sur le numéro qu'il vous communique immédiatement.
Et qui est le 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Parfait. Je rappelle que tout à l'heure à 10h, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera donc avec nous pour l'islam au présent. Alors, nous avons dans la salle d'attente Reda, Maître Serane. Reda, bienvenue.
Ah. Allô?
Oui, bonjour Reda. Comment allez-vous?
Ça va et vous? Bonjour Philippe, bonjour Maître Serane.
Bonjour Reda.
Vous allez bien?
Ça va, alhamdoulilah, et vous-même?
Et on perçoit un petit accent
du sud. Oui, très bien, merci beaucoup.
Vous nous appelez d'où, Reda?
De Paris.
D'accord, bien. Alors, quelle est votre question à Maître Serane, Reda?
Donc, ma question, c'est à propos de ma mère. Elle est retraitée, elle réside en Algérie. Elle a 69 ans, elle a deux enfants de nationalité française par conjoint français. Elle était adolescente au moment avant de l'indépendance. Elle est de parents nés en Algérie. Et après, ma question est par rapport à l'immigration et naturalisation. Comment est les possibilités?
Alors d'abord, si les enfants sont de nationalité française, s'ils demeurent sur le territoire français, donc elle peut demander à bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'ascendant. Donc si c'est évidemment la volonté de votre maman, donc je pars du principe qu'il n'y a plus personne au pays, que c'est une femme seule.
Si, il y a mon grand frère, mais il vit tout seul.
Ouais, alors c'est quand même un élément qui est pris en considération par les autorités françaises. C'est-à-dire que la meilleure option, entre guillemets, c'est le parent qui est seul au pays, qui a un certain âge, et puis parfois qui a même quelques problèmes de santé. Et tous les enfants sont sur le territoire français. Vous voyez, ça, c'est, entre guillemets, idéalement, ce qui est sollicité par les autorités préfectorales pour attribuer un titre en qualité d'ascendant. Je comprends bien que votre frère n'habite peut-être pas avec votre maman, mais les autorités préfectorales considèrent que la priorité est entre guillemets donnée à celui qui demeure sur le territoire d'origine, donc en Algérie. Donc on va dire cette femme n'est pas isolée, elle a un enfant. Alors certes, elle a peut-être un ou deux enfants sur le territoire français, mais elle a à minima un enfant qui est en Algérie. Il nous arrive parfois de contourner la chose, en tout cas de faire en sorte de contourner la chose en établissant des attestations pour dire que que cet enfant, alors c'est pas très très beau hein, ce que je vais vous dire, mais que cet enfant est un enfant, on va dire ingrat, qui rend jamais visite à sa mère, qui s'en occupe pas, qui habite très loin du domicile de sa mère. Alors parfois c'est vrai, malheureusement, parfois c'est faux, mais on est obligé de rajouter cette option pour rendre le dossier un peu plus crédible. Encore une fois, hein, moi j'ai parfois des clients qui l'acceptent parce que stratégiquement c'est une carte à jouer. Et puis j'en ai d'autres et que je comprends aisément qui disent ah non ça je peux pas parce que ça correspond pas à la réalité. D'accord. Et ça je l'entends et je le comprends. Mais d'accord. Ça reste entre guillemets un handicap que le fait d'avoir quand même un membre de la famille au pays qui pourrait éventuellement s'occuper de votre maman.
D'accord. Mais après, ma mère, elle est en Algérie, elle est toujours en Algérie. Donc, mais après, la procédure, si on veut la commencer, il faut faire les démarches auprès du consulat, il faut demander une visa spéciale, voilà. Ou il faut qu'elle vienne ici,
La personne est au pays, l'autorité administrative compétente, c'est toujours l'autorité consulaire. Alors, il arrive parfois que les personnes viennent sur le territoire français en qualité de touriste, et puis une fois qu'elles sont sur le territoire français, entre guillemets, elles changent de position et puis se disent bon, ben, maintenant que je suis sur le territoire français, je vais engager une procédure pour rester, en tout cas pour obtenir un titre, comme on dit, pérenne, donc un titre de séjour pour demeurer sur le territoire français. Alors, ça se fait aussi. Le seul truc à savoir, et j'insiste toujours là-dessus, c'est que si, imaginons que demain votre maman arrive sur le territoire français comme touriste, et qu'une fois sur le territoire français, donc elle a envie de rester, donc il faudra saisir cette fois-ci les autorités préfectorales du lieu de domicile. La préfecture met un certain temps pour apporter une réponse. Quand elle apporte une réponse, et puis je vais être clair avec vous, la réponse sera négative puisqu'on va considérer que la parole a été trahie, c'est-à-dire que moi, autorité française, j'autorise votre maman à venir comme touriste, et puis une fois qu'elle arrive en France, elle me dit bah maintenant je veux rester. Donc ça va pas faire plaisir aux autorités préfectorales, ce qui signifie que cette décision de refus soit un refus, vous recevez un courrier, donc un écrit avec une obligation de quitter le territoire, soit un refus à la suite du silence gardé par l'administration. Cette décision peut être contestée devant un tribunal administratif. Un tribunal administratif met à peu près un an et demi pour rendre une décision. Ça signifie que pendant ce laps de temps, c'est-à-dire que si on compte le délai préfecture, le délai tribunal, ça peut aller jusqu'à 2 ans, pendant ce laps de temps, votre maman va, entre guillemets, rester bloquée sur le territoire français. C'est-à-dire que si demain, elle a un coup de blues et elle dit « j'ai envie de faire un saut en Algérie, par exemple, pour aller voir votre frère », vous avez bien compris que alors la France va la laisser partir, il n'y a pas de problème, mais elle sera blacklistée. Elle ne reviendra plus sur le territoire français parce que la France ne lui délivrera plus jamais le moindre visa. Oui. Donc c'est un risque, entre guillemets, à courir. C'est-à-dire que quand on demande à l'un de ses parents de rester parce qu'on veut engager une procédure sur le territoire français, il faut bien insister sur le fait que les procédures sont longues et par définition, les parents sont parfois, mais c'est légitime et ça vient aussi avec l'âge, sont parfois un peu impatients ou ils ont le blues du pays. Donc, c'est quand même un sacrifice pour eux et faut bien insister pour pas les rendre encore plus malheureux. Donc, j'insiste toujours auprès de mes clients là-dessus.
Mais au consulat, on sait tous que le consulat, elle est faite pour attribuer des visas. Mais nous, si on demande, par exemple, un regroupement de ma mère qui doit, voilà, soi-disant, mon frère, il s'en occupe plus et nous, on est capable.
C'est un visa aussi, monsieur. C'est un visa long séjour, si c'est accordé. Ça remonte à loin, hein, le temps où l'autorité consulaire a attribué un visa long séjour à un Algérien, mais théoriquement ça existe. Ce serait un visa long séjour, un visa d'installation, et une fois que la personne arrive sur le territoire français avec son visa, elle fait les démarches auprès des autorités préfectorales pour transformer ce visa en titre de séjour.
D'accord. Donc le consulat, on demande un visa long séjour.
Voilà.
D'accord. Ok. Et après la piste de réintégrer la nationalité française par rapport à elle était adolescente à l'époque et on ne sait pas si son statut civil, s'il était local ou commun.
Bah oui, alors c'est le truc en fait pour le savoir, c'est, j'allais dire ça peut sembler curieux mais c'est comme ça, c'est de tenter la procédure. Maintenant ce ne serait pas sérieux de ma part de vous dire que de facto elle réunit toutes les conditions pour une demande de réintégration de la nationalité française, pour la délivrance d'un certificat de nationalité française. En fait, ça, on le découvre lorsqu'on engage la procédure et en fonction de la réponse apportée par l'autorité compétente. Parce que quand l'autorité compétente répond négativement, elle doit le motiver. C'est-à-dire qu'elle doit donner des pistes pour dire, bah non, écoutez, c'est pas possible parce que ceci, parce que cela. Et parfois, les clients découvrent, avec l'aide de l'avocat, découvrent qu'en vérité, c'était, pardon pour le terme, plié dès le début. Mais, voilà, on peut aussi passer entre les mailles du filet. Donc, ça vaut le coup d'engager cette procédure. Ensuite, j'insiste toujours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer les super déçus si l'administration refuse, parce que c'est une chance sur deux, quand même.
D'accord. Et les démarches, on fait toujours en Algérie ou en France qu'il faut faire les démarches?
Alors, la meilleure option pour votre maman, alors évidemment, on en reste si c'est... Si c'est une histoire de visa long séjour, c'est le consulat qui est compétent, donc en Algérie. Si c'est une demande de certificat de nationalité française, c'est le service de la nationalité française qui est à Paris, qui est seul compétent. C'est un formulaire à remplir avec des documents à réunir. Ensuite, ce service a 6 mois pour éventuellement apporter une réponse ou pour demander des précisions. Et puis, si la réponse est négative, c'est le tribunal judiciaire de Paris qui est seul compétent. En fait, Paris s'occupe de toutes les procédures pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Donc, d'accord. Si c'est un visa, vous restez au niveau du consulat. Si c'est un certificat de nationalité française, ça relève de la compétence du service sur le territoire français.
D'accord, ok. Ok, très bien. Voilà. Et les archives nationales, il n'y a pas besoin d'y aller vers eux et demander des documents.
Alors, il y a une règle, hein, c'est-à-dire que c'est à celui qui invoque la nationalité française pour votre maman en l'occurrence, d'apporter le maximum d'éléments. Donc, il n'y a rien qui vous interdit, effectivement, d'écrire à ses services et puis de demander tel ou tel document, telle ou telle précision. Vous avez bien compris que plus vous apportez des éléments dans ce sens-là, et plus l'administration sera amenée éventuellement à donner satisfaction. En droit, on dit que la charge de la preuve vous incombe. C'est-à-dire que si vous dites, attendez, moi, cette personne, je sais ou je peux démontrer qu'elle est de nationalité française par filiation, c'est à moi d'apporter la preuve de ce que je déclare. Donc, d'accord. Si vous pensez qu'au niveau des archives, il peut y avoir des éléments qui puissent aller dans ce sens-là, évidemment qu'il ne faut pas hésiter à aller à vous en rapprocher, à les contacter, évidemment.
Ok, très bien.
Reda, bon, bah, est-ce que c'est clair pour vous?
Ah ben, c'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup pour ces infos-là.
Merci à vous pour votre appel, Reda.
Bon courage.
Bon
merci
courage
à vous et bon courage. À
merci.
Bientôt.
À bientôt, Reda.
Bonne journée, au revoir.
Bon week-end, Reda. Merci. D'autres appels dans un instant. Vous avez une question juridique à poser à Maître Serin. Eh bien, vous êtes le bienvenu au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et Faudil le disait tout à l'heure, Maître Serin est avec nous tous les samedis en direct pour répondre à vos questions au 01 53 48 3000. Direction Toulouse, Maître Serin, et c'est Karima qui est avec nous. Karima, bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Maître Serin.
Bonjour Karima.
Bienvenue.
Bonjour. Alors, moi j'aurais deux questions assez différentes, deux dossiers différents. Le premier me concerne, je vous avais eu en septembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez expliqué que je voulais me marier avec un Marocain, étant nationalité, moi, française, algérienne, et que je n'arrivais pas à avoir de rendez-vous pour le certificat de capacité français aux ambassades au Maroc. Il n'y avait pas de rendez-vous disponible, et je vous avais dit, si je me marie en algérienne, est-ce que la France reconnaît mon mariage ? Vous m'aviez dit oui, donc j'ai fait ça. J'ai fait un mariage mixte qui a pris beaucoup, beaucoup de temps, puisque c'est très compliqué de se marier avec un Marocain, un Marocain et une étrangère. Donc j'ai envoyé mon dossier à Nantes, telle que la procédure le demande, j'ai eu mon acte de mariage. J'ai eu le certificat de capacité par le consulat d'Algérie, avec évidemment beaucoup de papiers à fournir. Et j'ai envoyé tout traduit par un traducteur assermenté à Nantes. Donc aujourd'hui, je voulais savoir s'il y avait un délai pour pouvoir recevoir mon acte de mariage. Et j'envisage d'écrire un courrier. Vous allez trouver ça peut-être ridicule, mais bon. J'envisage d'écrire un courrier pour expliquer ma situation à, soit au ministre, soit au président de la République, soit pour que mon dossier ne soit pas sorte du lot, ou je ne sais pas.
Pour répondre d'abord à cette dernière remarque, le courrier au président de la République, au ministre X ou Y, vous imaginez bien, honnêtement, que il y aura zéro incidence. C'est-à-dire que si vous tombez sur quelqu'un de poli, il y a un sbire qui va vous renvoyer un petit courrier pour vous dire, écoutez, on a transmis votre doléance au ministre lambda ou au président Y, mais à part une corbeille à papier, je vois pas où le courrier pourrait être transmis. Donc là, c'est vraiment, enfin, c'est plus une perte de temps. Ensuite, pour le timing, pour la transcription, enfin, on part du principe que si votre dossier est complet, l'administration, d'abord, quand elle considère qu'un dossier est incomplet, vous recevez, on va dire, dans la semaine qui suit ou dans les 15 jours qui suivent l'envoi de votre dossier à Nantes, vous recevez un petit courrier qui dit, écoutez, il faudrait compléter avec tel ou tel document. Et en règle générale, on vous accorde 15 jours pour compléter.
Oui.
Et alors, faut faire attention parce que on a certaines personnes qui laissent passer ce délai. Et quand il n'y a pas de réponse à la suite du premier courrier, Nantes renvoie un nouveau courrier pour dire, écoutez, vous m'avez pas répondu, donc votre dossier est classé. Voilà, donc c'est pénible parce qu'ensuite il faut le contester, donc faut engager une procédure. Si vous avez pas reçu de courrier de cette nature, il faut à peu près, voilà. Alors il y a pas un texte de loi qui dit il y a un nombre déterminé de jours à respecter, mais en règle générale, dans les deux mois qui suivent la réception du courrier, la transcription est faite. Alors, ce qui peut sembler surprenant, c'est que Nantes, lorsqu'elle procède à la transcription, n'envoie pas de facto un courrier ou un acte d'état civil avec la mention mariage transcrit. Donc, il faut pas hésiter à revenir vers eux. Il faut pas hésiter éventuellement à commander un acte parce que peut-être qu'au moment où on se parle, la transcription a déjà été faite. Donc, il faut quand même commander un acte pour vérifier.
Dans le mail d'accueil des réceptions, ils disent de ne pas les contacter, qu'on sera éventuellement...
dans le meilleur des mondes. Alors, ils ont raison, parce que c'est pour éviter aussi de recevoir 1000 mails de chaque personne. Mais faut pas hésiter à le faire. Ça fait combien de temps que vous avez envoyé le dossier ?
Ils l'ont réceptionné début mai.
Comme dire à l'autre, patienter jusqu'à juillet, peut-être on va dire même août, parce que juillet août ça tourne un peu au ralenti, mais juillet peut-être, hein, si vous avez rien reçu, un petit mail pour voir où ça en est, mais on est, au moment où on se parle, dans un timing raisonnable,
hein. Ce qui me cause des insomnies, c'est que je me dis, le certificat de capacité algérien, est-ce qu'il peut poser un problème auprès de Nantes, parce que j'ai pas eu de certificat de capacité de mariage français. J'ai eu algérien. Et je l'ai fait traduire par le traducteur assermenté. Je l'ai fait
mon dossier. Alors, il arrive parfois, mais ça peut être source de tracasserie. Il arrive parfois, effectivement, que Nantes renvoie un courrier pour dire, écoutez, il nous manque un certificat de capacité.
Mais on ne peut pas le faire.
Bah oui, non, mais j'entends bien. Ce qui laisse entendre que le certificat de capacité des autorités algériennes n'est pas pris en considération. Ensuite, malheureusement, madame, c'est-à-dire que si il reste bloqué sur ce document, à part contester la décision, ça veut dire une procédure, il n'y a pas d'autre option. Vous savez, comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire que si effectivement vous faites des demandes et puis pour des raisons lambda, l'administration ne vous répond pas ou ne vous communique pas tel ou tel document, on fait avec les pièces qu'on a. Donc vous pouvez passer, encore une fois, entre les mailles du filet, mais si effectivement c'est le seul argument, ça voudrait dire qu'une procédure pour contester ce refus, ce qui selon moi est ou serait abusif, deviendrait nécessaire.
D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors le deuxième dossier, c'est un ami à moi pour qui j'avais fait aussi la transcription il y a un an. Il s'est marié en Algérie, sa femme est là. Elle a eu le visa, elle a eu tout. Le souci aujourd'hui, elle a un enfant sexe. C'était précisé sur l'acte. Enfin, elle a un enfant de 14 ans.
D'accord. Ah oui, d'accord. Donc d'une autre relation.
Là, c'est un ami à moi.
Non, d'accord. Mais cette femme.
C'est notre question. Oui.
J'entends bien. Mais cette femme, voilà, elle a un enfant, mais de quelqu'un d'autre, pas avec la personne avec qui elle s'est mariée.
Exactement.
D'accord.
Moi, quand j'ai laissé le dossier de transcription à Nantes il y a un an, j'avais l'acte de divorce sous les yeux, l'acte de divorce donné algérien, donné 100% les droits à la maman. Le papa était alors incarcéré en Algérie.
D'accord, mais est-ce qu'il y avait quand même, parce que ça c'est important, alors on peut être incarcéré et ne pas être déchu de son autorité parentale, est-ce qu'il était quand même accordé des droits de visite à minima au père ou pas du tout ?
Non, pas du tout.
La mère avait ce qu'on appelle l'autorité parentale exclusive ?
Oui.
C'est un petit oui, c'est sûr ?
Oui.
Bon.
Non. J'ai lu l'acte de divorce et effectivement, il me semble qu'elle avait l'autorité parentale exclusive puisqu'elle n'a jamais calculé son enfant. Elle n'a pas eu de visa pour son fils. Elle est venue toute seule. Mmh. En tout temps, le papa est sorti de prison. Il a pris son fils. Là, elle s'est renseignée en France. On lui a dit il faut la kefala. Le papa ne voulait pas faire de kefala parce que c'est comme un abandon pour lui, psychologiquement.
Alors, juste pour essayer de comprendre, la kafala, oui. La kafala, c'est l'équivalent d'un acte d'adoption. On demanderait quoi ? On demanderait au mari de cette femme de faire une kafala.
Son ex-mari, la France, pour faire le visa à son fils, il n'a pas eu de visa, lui.
J'ai bien compris. Mais que vient faire la kafala dans cette histoire ? C'est ça qui.
On lui demande la kafala pour avoir un visa pour son fils.
Qui doit faire la kafala pour essayer de comprendre ? On demande ça à qui ?
Au papa naturel, le papa qui était en prison.
Mais madame, la kafala, c'est. J'ai pas besoin de kafala si je suis le père de cet enfant. La kafala, si on parle bien de la même chose, c'est un enfant d'un couple lambda. Et moi, je souhaite, entre guillemets, adopter cet enfant. Donc je peux faire, moi, une kafala pour adopter un enfant. Mais si je suis le père naturel de cet enfant, je n'ai pas de kafala à faire. C'est déjà mon fils.
Signer le papa naturel, non ?
Pardon ?
Le papa naturel doit signer l'autorisation que l'autre adopte son enfant.
Ben oui, mais ben, je vous pose la question. Est-ce que on parle d'une kafala pour l'autre personne, c'est-à-dire le mari de cette femme ? Non. Vous me dites non, c'est pour le père. Le père naturel n'a pas de kafala à faire. Est-ce qu'on se comprend ?
Et oui, sur ça, je ne comprends pas. La kafala, alors, c'est le nouveau mari qui doit la faire.
Voilà, la kafala. Alors, là où vous avez raison, c'est qu'elle ne peut pas se faire sans l'accord du père naturel de cet enfant.
Exactement.
Mais ça, vous m'avez dit juste avant, si j'ai bien compris, que ce père aurait été déchu de son autorité parentale. C'est-à-dire qu'il aurait zéro pouvoir sur cet enfant. Juridiquement parlant, est-ce que donc vous êtes sûr de ça ?
Dans le premier, non, j'en suis pas sûr.
Ah,
dans
voilà.
Le premier, il me semble, entre-temps, quand il est sorti de prison, il est repassé, lui, au tribunal.
D'accord, voilà, ce qui est tout à fait probable.
Et il a eu un jugement en sa faveur.
Bon, donc, madame, la question ne se pose plus.
Alors, maintenant qu'il est réincarcéré, qu'est-ce qu'elle peut faire ?
Même chose, il faudrait qu'elle retourne devant un juge aux affaires familiales pour dire, écoutez, voilà la situation, mais oui. Que ce soit l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, en tout cas les pays de droit musulman, refusent en règle générale de retirer l'autorité parentale du père. Donc, La difficulté, c'est que tant que le père est vivant, incarcéré ou pas, il restera le père, et la probabilité pour qu'un tribunal dise « bah écoutez, il est incarcéré, madame, maintenant vous êtes la seule à décider tout sur l'enfant », c'est infinitésimal, donc c'est peu probable qu'elle obtienne gain de cause.
Et pour avoir un visa pour son fils, alors elle n'a aucune solution, elle le laisse en Algérie, avec la mère qui a...
Le truc, madame, c'est que ce garçon a un père. Vous voyez, moi j'entends bien, et je peux comprendre hein, que la mère ait envie d'eux. Mais si l'enfant demande un visa, on demandera aussi le feu vert du papa, naturel.
Donc il doit signer une demande de visa.
Après, si le père naturel dit « Ok, je peux comprendre, il sera mieux avec sa mère en France et avec le mari de madame », pourquoi pas. Mais c'est évidemment difficile à obtenir ce genre d'autorisation. Sinon, en dehors de ça, alors oui, ce sera une bataille devant les tribunaux d'abord algériens. Mais c'est peu probable qu'un magistrat dise désormais, monsieur, vous ne serez plus juridiquement le père de cet enfant. Ouais, il faudrait qu'il y ait quasiment une tentative de meurtre sur son gamin.
C'est la seule condition pour que son fils obtienne un visa. C'est une maman quand même, il a toujours vécu avec elle.
Oui, mais j'entends bien. Mais de l'autre côté, il y a un type qu'on appelle le papa, madame. C'est-à-dire que moi, je peux comprendre un magistrat qui dit oui, c'est une maman. Mais en quoi une maman aurait plus de droits qu'un père? J'ai du mal à comprendre ce raisonnement, que ce soit par des magistrats français ou autres. Bien sûr que c'est une maman, mais en face, il y a un père. Alors, c'est pas parce que le père a été incarcéré qui, a priori, enfin, on connaît pas l'histoire, qui détesterait son enfant. Il n'a pas été incarcéré parce qu'il a frappé l'enfant.
Oui, oui. Bon. Mais le fait de le faire venir en France ne veut pas dire qu'elle lui retire. Enfin, elle est dans la même ville que lui. Il reste le papa.
Oui.
C'est juste qu'elle est ici parce qu'elle s'est mariée et qu'elle a envie que son fils soit là.
Madame, c'est une demande qui est légitime de la part de la mère. Mais pour le père, c'est la même chose, non? Le père a peut-être envie que son fils soit dans le secteur et qu'il n'ait pas à franchir la Méditerranée à chaque fois qu'il veut voir son enfant. Donc c'est très compliqué, encore une fois. Hein. Je ne dis pas qu'il y a de bonnes solutions. Je dis qu'il ne suffit pas juste d'être la mère pour dire « Écoutez, mon enfant me manque ». Un père aime aussi ses enfants, me semble-t-il. J'en ai moi-même et je crois que je les aime autant. Je ne vais pas dire si ce n'est plus que mon épouse.
Madame Serran les aime plus.
Oui, mais on les aime autant. On les aime autant. C'est-à-dire que et souvent, on dit le père, il peut... Le père, il a un cœur, le père a des enfants, et il aime aussi ses enfants. Donc, tant que... En tout cas, si ce père ne donne pas son autorisation, l'enfant restera jusqu'à sa majorité au pays.
Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Carrément, on est pris par le temps, mais vous pouvez poursuivre cette conversation avec Maître Serran en particulier. À quel numéro, Maître Serran ?
Au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Et en parlant de particulier, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera avec nous dans un instant. Maître Serran, on vous retrouve donc avec Poncho la semaine prochaine.
Ghost. Inch'Allah.
Ça s'appelle Poncho, moi.
Non, ça s'appelle Ghost. Poncho, c'est quoi ce nom qui ferait peur à personne, d'ailleurs? Ça s'appelle quand on dit Poncho? Bon, Poncho. D'accord.
Alors que Ghost, on sent tout de suite quand même qu'il est...
Ah ouais, quand même.
Ah ouais. On vous retrouve avec Ghost la semaine prochaine. À tout de suite dans l'Islam au présent.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.